à tous et bienvenue. L'émission Compte-Gouttes se confine, mais se transforme. Je suis Caroline et je vous raconte une ou deux histoires tous les jours à 14h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Profitez-en pour endormir vos enfants, augmenter le sonotone de belle-maman, profitez-en pour rêver et voyager. Il n'y a pas d'angoisse à avoir, on ne sera jamais à court d'histoire, car les contes, c'est comme l'eau de la mer. Tu peux en prendre autant que tu voudras, jamais le niveau ne baissera. Aujourd'hui, on va faire un tour du côté des frères Grimm et des histoires qu'ils nous ont récoltées. Suivez-moi, on va faire la rencontre du vieux Cricrac. Il était une fois un roi qui avait une fille. Il s'était fait bâtir une montagne de verre et avait annoncé que celui qui la gravirait sans tomber épouserait sa fille. Or, il y avait à ce moment-là un jeune homme qui aimait la princesse et qui s'en vint demander sa main au roi. « Je la lui donnerai, dit le roi, s'il est capable de monter jusqu'au sommet de la montagne sans tomber. » Sur quoi la princesse déclara qu'elle voulait faire l'ascension avec lui et le retenir s'il devait tomber. Ils entreprirent ensemble l'ascension et commencèrent à monter vers le sommet, mais quand ils furent à mi-chemin, exactement entre le bas et le haut, voilà que la princesse glissa et tomba de là-haut. Mais la montagne de verre s'ouvrit et elle tomba et disparut au fond de la crevasse. Son fiancé eut beau chercher, il ne la vit point, car la montagne s'était refermée aussitôt comme avant sa chute. Il pleura et se lamenta désespérément, et le roi, lui aussi, fut terriblement triste. Il ordonna qu'on ouvrît la montagne en espérant la retrouver, mais il fut impossible de découvrir l'endroit où elle avait disparu. Pendant ce temps, la princesse était tombée tout au fond de l'abîme, où elle était arrivée dans une vaste caverne. Survint alors un vieux bonhomme à barbe grise, une excessivement longue barbe grise, et il lui dit qu'elle aurait la vie sauve si elle acceptait d'être sa servante et faisait tout ce qu'il lui commanderait. Sinon, il la tuait tout de suite. Alors, bien sûr, elle fit tout ce qu'il voulut. Au matin, il tire son échelle de sa poche, le vieux bonhomme, il la dresse contre la montagne et il monte au sommet. Et de là-haut, ensuite, il tire l'échelle tout là-haut. Pendant qu'il n'est pas là, elle doit lui faire la cuisine, son ménage, le lit, enfin, tout le travail. Mais lui, quand il rentre chez lui le soir, il rapporte toujours des quantités d'or. Elle y passa des années, et il était devenu très vieux, vraiment très vieux. Et maintenant, il l'appelait Madame Rougeomme, tandis qu'elle devait l'appeler Vieux Cricrac. Une fois de plus, il était reparti par en haut, et alors elle lui fit son lit, elle lava sa vaisselle, et puis elle s'en alla fermer toutes les portes et les fenêtres bien solidement, à l'exception d'une lucarne par où entrait la lumière qu'elle laissa ouverte. Quand le vieux Cricrac fut de retour, il frappa à la porte et appela. « Dame Rougeomme, ouvre-moi la porte !»« Non, » dit-elle, « je ne t'ouvrirai pas la porte, vieux Cricrac. » Je suis le pauvre vieux Cricrac, debout, dehors, sur mes vieux tibias, 17 fois longs. Fais ma vaisselle, dame Rougeomme. » Ainsi criait-il du dehors, et elle lui répondit que la vaisselle était faite. Je suis le pauvre vieux Cricrac, debout, dehors, sur mes vieux tibias, 17 fois longs. Fais-moi mon lit, dame Rougeomme. Ton lit, mais je l'ai déjà fait, répondit-elle. Je suis le pauvre vieux Cricrac, debout dehors sur mes vieux tibias, 17 fois longs, dame Rougeomme, ouvre la porte. » Comme elle ne veut toujours pas ouvrir la porte, il se met à courir et fait le tour de sa maison. Et quand il voit que la petite lucarne n'est pas fermée, il pense à aller regarder par là pourquoi elle ne lui ouvre pas la porte. Mais il n'arrive pas à introduire sa tête à cause de sa longue barbe qui le gêne. Et pour pouvoir le faire, il passe d'abord sa barbe par la lucarne. Mais dès qu'elle est dedans, Madame Rougeomme accourt et ferme la lucarne. Alors la barbe est prise dedans et elle y reste bien solidement. Et dehors, il s'est mis à hurler et à se plaindre que cela lui fait mal. Il la conjure de bien vouloir le relâcher. Elle lui répond qu'elle ne le fera pas avant qu'il ne lui ait donné son échelle. Bon gré, mal gré, il lui fallut y passer et lui dire où était cette échelle. Bon. Et maintenant qu'elle est renseignée, elle fait un nœud avec la longue barbe autour de la lucarne, puis elle dresse l'échelle et sort sur le sommet de la montagne. Une fois dehors, elle laisse la lucarne s'ouvrir et s'en retourne chez son père. Le roi se réjouit tant et plus de retrouver sa fille, mais pas autant que le fiancé. Alors ils s'en sont tous allés creuser dans la montagne, sous laquelle ils ont découvert le vieux Cricrac avec tout son or et tout son argent. Le roi fit mettre à mort le vieux Cricrac et ramena au palais l'or et l'argent. Mais la princesse épousa quand même son fiancé vieilli, et ils vécurent heureux et contents. Continue notre balade dans l'univers des frères Grimm avec cette histoire intitulée « Les lutins ». C'était un cordonnier qui était devenu si pauvre, sans que ce soit de sa faute, qu'à la fin il ne lui resta plus de cuir que pour une seule et unique paire de chaussures. Le soir donc, il le découpa, comptant se remettre au travail le lendemain matin et finir cette paire de chaussures. Et quand son cuir fut taillé, il alla se coucher, l'âme en paix et la conscience en repos. Il se recommanda au bon Dieu et s'endormit. Le lendemain matin, après avoir fait sa prière, il voulait se remettre au travail quand il vit, sur son établi, les souliers tout faits et complètement finis. Il en fut tellement étonné qu'il ne savait plus que dire. Il prit les chaussures en main et les examina de près. Le travail était impeccable et si finement fait qu'on eût dit un chef-d'œuvre. Pas le moindre point qui ne fût parfait. Un acheteur arriva peu après, trouva les souliers forts à son goût et les paya plus cher que le prix habituel. Avec cet argent, le cordonnier put acheter assez de cuir pour faire deux paires de chaussures qu'il tailla le soir même, pensant les achever le lendemain en s'y mettant de bonne heure. Mais le matin, quand il arriva au travail, les deux paires de souliers étaient faites, posées sur son établi, sans qu'il se fût donné la moindre peine. Au surplus, les acheteurs ne lui manquèrent point non plus, et c'étaient de vrais connaisseurs, car ils lui laissèrent assez d'argent pour qu'il pût acheter de quoi faire quatre paires de chaussures. Et ces quatre paires-là aussi, il les trouva finies le matin, quand il venait, plein de courage, pour se mettre au travail. Et comme par la suite, il en alla toujours de même, et que ce qu'il avait coupé le soir se trouva fait le lendemain matin, le cordonnier se trouva non seulement tiré de la misère, mais bientôt dans une confortable aisance, qui touchait presque à la richesse. Peu de temps avant Noël, un soir, après avoir taillé et découpé son cuir, le cordonnier dit à sa femme au moment d'aller au lit « Dis donc, et si nous restions éveillés cette nuit pour voir qui nous apporte ainsi son assistance généreuse ?» L'épouse en fut heureuse et alluma une chandelle neuve, puis ils allèrent se cacher, tous les deux, derrière les vêtements de la penderie, où ils restèrent à guetter. À minuit, arrivèrent deux petits mignons petits nains tout nus qui s'installèrent à l'établi et qui, tirant à eux les coupes de cuir, se mirent de leurs agiles petits doigts à monter et piquer, coudre et clouer les chaussures avec des gestes d'une prestesse et d'une perfection telles qu'on n'arrivait pas à les suivre ni même à comprendre comment c'était possible. Ils ne s'arrêtèrent pas dans leur travail avant d'avoir tout achevé, puis ils disparurent tout aussi prestement. Le lendemain matin, l'épouse dit au cordonnier. Ces petits hommes nous ont apporté la richesse. Nous devrions leur montrer notre reconnaissance. Ils sont tout nus. Ils doivent avoir froid à courir ainsi. Sais-tu quoi? Je vais leur coudre des petits caleçons et des petites chemises, des petites culottes et des petites vestes. Et je tricoterai pour eux de petites chaussettes. Toi, tu leur feras à chacun une petite paire de souliers pour aller avec. Cela, dit le mari, je le ferai avec plaisir. Et le soir, quand ils eurent tout fini, ils posèrent leurs cadeaux sur l'établi à la place du cuir découpé qui s'y entassait d'habitude et ils allèrent se cacher de nouveau pour voir comment ils recevraient leurs présents. À minuit, les lutins arrivèrent en sautillant pour se mettre au travail quand ils trouvèrent sur l'établi, au lieu du cuir, les petits vêtements préparés pour eux. Ils marquèrent de l'étonnement d'abord, puis une grande joie à voir les jolies petites choses dont ils ne tardèrent pas à s'habiller des pieds à la tête en un clin d'œil pour se mettre aussitôt à chanter. Maintenant, nous voilà comme de vrais dandys, pourquoi jouer encore les cordonniers ici? Joyeux et bondissant, ils se mirent à danser dans l'atelier, à gambader comme de petits fous, sautant par-dessus chaises et bancs pour gagner finalement la porte et s'en aller, toujours dansant. Depuis lors, on ne les a plus revus. Mais pour le cordonnier, tout alla bien jusqu'à son dernier jour, et tout lui réussit dans ses activités comme dans ses entreprises. Vous venez d'écouter l'émission Compte-Gouttes, enregistrée depuis chez moi. Sans trucage, sans artifice, sans coiffeur et sans les ressources précieuses de la bibliothèque. Prenez soin de vous et à très vite.